Des caractéristiques nouvelles s'ajouteraient aux anciennes qui en seraient les bases. Dans la nature, il existerait déjà des lois générales du développement humain pour toutes les époques. Ces maîtres du socialisme ont conduit par là non seulement à négliger la pratique révolutionnaire de classe, mais à n'envisager par exemple le développement des forces productives que d'un point de vue quantitatif ou technologique, à penser comme Kautsky que l'État existera de toute éternité et ne changera que par l'approfondissement de sa forme démocratique. L'objet de Kautsky, ou même de Plekhanov, c'est précisément de sortir de l'analyse des sociétés de classe pour analyser les sociétés primitives et la biologie, et ainsi de dégager une loi de la nature commune à tout développement naturel ou social en général. C'est comme cela qu'en dépouillant la dialectique hegelienne, non pas de son idéalisme conservateur, mais de son côté critique et révolutionnaire, qu'il la transforme en un a priori naturaliste, suprahistorique. Le matérialisme historique devient alors une métaphysique naïve de l'évolution, qui doit beaucoup à Darwin et finalement à la pensée pré-critique et pré-kantienne. Ce trait était déjà sensible chez Engels, en particulier dans les origines de la famille de la propriété privée et de l'État, et ce qu'il doit à Morgan, dans l'anti-During et dans la dialectique de la nature. Dans l'anti-During, on trouve déjà cette contamination hegelo-darwinienne où l'hérédité représente la thèse, l'adaptation l'antithèse, comme agent générique de tout le procès évolutif, depuis la cellule jusqu'au socialisme. On retrouve l'ambition ethnologique d'un chaos, on retrouve chez Engels, en particulier dans les origines de la famille de la propriété privée et de l'État, les ambitions ethnologiques d'un Kautsky ou d'un Kunov. C'est particulièrement clair, également, dans plusieurs textes où Engels paraît contredire la méthode même de Marx. Dans l'anti-During, Engels dit que les définitions sont sans valeur pour la science. Je cite, il dit, « Elles sont toujours insuffisantes. La seule définition réelle est le développement de la chose même, mais ce développement n'est plus une définition. Pour savoir ce qu'est la vie, nous sommes forcés d'étudier toutes les formes de la vie et de les représenter dans leur enchaînement. » Par conséquent, ici, comme chez Auguste Comte, la succession chronologique des faits remplace l'explication causale et scientifique. Engels prend le contre-pied de la fameuse citation « L'anatomie de l'homme est la clé de l'anatomie du singe ». C'est aussi ce qui a amené Engels à regretter ouvertement la méthode logique du capital qui envisage le résultat de la société capitaliste post-festum. Et c'est ce qui pousse Engels à tenter de montrer que la méthode logique n'est pas différente de la méthode historique, qu'elle n'est finalement que la méthode historique mais dépouillée de ses complications inessentielles pour dégager une loi pure. C'est ce qui l'a amené aussi à envisager très curieusement la loi de la valeur comme une théorie générale approximative qui serait historiquement valable mais plutôt dans la phase marchande pré-capitaliste que dans la phase capitaliste proprement dite. Cela ressort dans le complément et le supplément au livre 3 du Capital, quand il essaye de répondre à Schmitt et Sombart, qui faisaient de la théorie de la valeur une construction pure de la pensée, une abstraction hypothétique. La meilleure preuve pourtant que le marxisme n'est pas cette philosophie de l'histoire, malgré les ambiguïtés qui peuvent résulter de la lecture hâtive de la préface de 1859, sur la succession des époques progressives de la formation économique et sociale, c'est pourtant Marx qui la donne lui-même, par exemple, dans sa fameuse réponse à Mikhaïlovski ou dans ses lettres à Vera Zasulich. Au populiste russe Mikhaïlovski, qui reprochait à Marx de prétendre qu'une étape capitaliste de développement était inévitable et nécessaire à l'avenir même du socialisme en Russie, comme si le matérialisme historique se construisait sur le schéma dialectique hegelien, Marx répondait que c'était lui faire à la fois trop d'honneur, tout expliqué, et trop de honte. Et il envisageait, ouvertement, dans certaines conditions, le passage au socialisme dans une société précapitaliste comme la Russie, qui ferait donc l'économie du passage au capitalisme. C'est ce que Lénine a remarquablement su montrer contre l'évolutionnisme positiviste à deux reprises. Contre la critique populiste du même Mikhaïlovski dans Ce que sont les amis du peuple et contre la théorie dite des forces productives, théorie de la deuxième internationale, qui en 1917 prétendait figer la révolution russe sur le seul stade bourgeois, étant donné l'insuffisant développement du capitalisme en Russie. L'analyse marxiste part au contraire du développement réel et spécifique de sa genèse et de ses tendances. L'histoire marxiste n'est pas une théorie supra-historique de la filiation continue entre les phénomènes sociaux. C'est ce que l'orthodoxie stalinienne a complètement perdu de vue. Dans le diamat stalinien, il existe une loi générale du développement qui caractérise aussi bien la nature que l'histoire. Là aussi, le matérialisme historique devient un procès continu de filiation entre l'ancien et le nouveau. Nouveau qui n'est jamais réellement nouveau, qui n'est que formellement nouveau. Le marxisme devient une philosophie de l'histoire, ce qui d'ailleurs a conduit les staliniens à éliminer un certain nombre de catégories employées par Marx lui-même, comme par exemple le concept de mode de production asiatique. Troisième partie, mécanisme et naturalisme. Cet évolutionnisme est une forme de matérialisme mécanique, matérialisme mécanique que Marx pourtant critique si fort au moment précis où on situe l'élaboration réellement marxiste dans l'œuvre de Marx, c'est-à-dire dans les thèses sur Feuerbach. Cet évolutionnisme, ce mécanisme, explique la sous-estimation, en particulier du moment subjectif dans la pratique. L'idéalisme reconnaît l'activité, mais non pas l'activité objective. Le matérialisme pré-marxiste, à la manière de Feuerbach, ignore l'activité. La thèse numéro 3, la thèse sur Feuerbach numéro 3, s'applique remarquablement à la critique du positivisme. Que dit-elle ? La doctrine matérialiste de la transformation des circonstances et de l'éducation oublie qu'il faut les hommes pour transformer les circonstances et que l'éducateur a lui-même besoin d'être éduqué. C'est pourquoi il lui faut diviser la société en deux parties dont l'une est élevée au-dessus d'elle. La coïncidence du changement des circonstances et de l'activité humaine ou auto-transformation ne peut être saisie et rationnellement comprise qu'en tant que pratique révolutionnaire. Vous avez déjà pu remarquer que la pente du marxisme de la deuxième internationale était précisément de naturaliser la dialectique historique sans prendre en compte le changement réel, le saut qui distingue l'histoire humaine de l'histoire naturelle, et au-delà, le saut que représente le socialisme en tant que passage de la préhistoire à l'histoire, du règne de la nécessité à celui de la liberté. Le scientisme matérialiste et prédialectique conduit à séparer théorie et pratique de classe, et par là à négliger la pratique révolutionnaire. Mais c'est là une question très compliquée, il faudrait l'aborder plus longuement que je ne le ferai ici. Je me contenterai d'en voir les conséquences dans un aspect bien particulier du positivisme à l'intérieur du marxisme, l'économisme comme mécanisme. Dernière partie, positivisme, marxisme et économisme. Ici, je ne ferai pas d'allusion à Auguste Comte. Auguste Comte considérait que l'économie politique n'avait pas le droit à l'existence. Elle devait être supplantée complètement par sa fameuse sociologie. Mais qu'est-ce que l'économisme marxiste ? Nous y verrons qu'il y a, dans les déviations économistes chez les marxistes, la présence tout à fait évidente de la pénétration du positivisme et du mécanisme. Qu'est-ce que l'économisme ? C'est pour reprendre la formule de Lénine dans Ce que sont les amis du peuple, séparer dans la théorie marxiste le squelette, c'est-à-dire l'analyse de la structure économique de la société bourgeoise, et la chair et le sang, c'est-à-dire les superstructures politiques et idéologiques. Après avoir séparé structure et superstructure, l'économisme, c'est de faire des superstructures, d'une façon ou d'une autre, le produit pur et simple, ou la traduction pure et simple, de la base économique. Chez Marx, l'objet de l'étude, la société bourgeoise capitaliste, est pourtant bien constitué de la combinaison et de l'interrelation de tous ces aspects. La conscience est un moment de l'être, la superstructure fait elle-même partie de la structure du tout social. Il n'y a pas de faits économiques purs chez Marx, sinon ce serait vider la production de ses caractères historiques et sociaux, alors que chez Marx, la production des choses est aussi et en même temps la production des hommes et de leurs idées, alors que chez Marx, la production matérielle est en même temps la production des rapports sociaux, c'est-à-dire des rapports de classe, de la lutte des classes. Certes, idéologie et politique sont des parties distinctes du tout. Dans le tout d'une formation économique et sociale, il y a unité des hétérogènes. Par exemple, la production comprend la distribution, l'échange et la consommation, mais la distribution, l'échange et la consommation en sont des moments spécifiques et distincts. On ne peut pas les étudier sans ce qui les détermine comme leur antécédent, c'est-à-dire la production. De même, les faits politiques et les faits de conscience font partie de la production, mais ils en sont des éléments, des moments spécifiques. Une œuvre d'art n'est pas le réseau de chemin de fer de la SNCF. L'idéologie a pour fonction de réfléchir d'une certaine manière l'être. Voilà pourquoi il faut accorder la priorité à l'être, c'est le matérialisme. Mais ceci, sans perdre de vue l'unité conscience-être, unité faite d'hétérogènes, de distinctes, c'est-à-dire sans perdre de vue le caractère actif et la spécificité du moment de la conscience. Le marxisme de la Deuxième Internationale s'est forgé contre cela une idée naïve de l'économie étroitement liée à son évolutionnisme naturaliste et prédialectique. Les marxistes de la Deuxième Internationale considèrent l'économique à part, sans penser à l'unité de la structure du tout, comme si l'économique était un avant l'homme, un antécédent à la fois chronologique et logique à l'histoire humaine. L'économique, pour eux, c'est la production en soi, extérieure au rapport de production. Dans Question fondamentale du marxisme, Plekhanov rentre dans cette perspective. Il y a un d'abord. L'état des forces productives qui serait totalement neutre, purement technologique. Et cet état des forces productives, ce serait le fondement, l'élément le plus simple, l'élément matière au sens métaphysique du terme. Il faudrait simplement envisager ensuite les rapports économiques qui sont conditionnés par ces forces, puis le régime social et politique, la psychologie de l'homme social, et enfin les diverses idéologies. Au début, il y aurait la matière, ça serait le fondement de toute la construction, matière qui serait conçue indépendamment de l'histoire. Cette idée naïve de l'économie conçue en dehors du processus historique et social, cette théorie évolutionniste et mécaniste, conduisent à une sorte de fatalisme. Une crise économique définitive, catastrophique, est inévitable dans le capitalisme, indépendamment du rapport des classes, des formes de la conscience, des rapports politiques, etc. Dans la mesure où l'approfondissement d'une crise ne conduit pas à l'effondrement, comme ce fut le cas pour la Grande Dépression de 1873 à 1895, le marxisme de Deuxième Internationale oscille entre deux courants, révisés comme Bernstein, puisque l'effondrement ne s'est pas produit, ou alors justifiés, mais en restant enfermés dans cet espace, en conservant cette idée naïve, comme l'ont fait Plekhanov et Kautsky. D'un côté, chez les révisionnistes, le socialisme perd son fondement objectif, puisqu'il sera le résultat de la seule volonté des hommes, il n'est plus historiquement nécessaire. Mais de l'autre, chez les critiques des révisionnistes, on tente de tout justifier en restant enfermé dans un déterminisme matérialiste prédialectique. On assiste au dialogue métaphysique entre l'inflexible nécessité avec un grand N et son opposé abstrait, la liberté, avec un grand L, au dialogue métaphysique traditionnel de Madame la Matière et de Monsieur l'Esprit. Il faut reconnaître qu'Engels a objectivement favorisé ces deux tendances dans ses lettres autocritiques de la fin de sa vie, les lettres à Conrad Schmidt, à Heinz Tackenburg et à Joseph Bloch. C'est en effet dans ces lettres qu'on trouve le fameux serpent de mer de la détermination en dernière instance par l'économique. L'économique n'est pas le seul déterminant. Les superstructures sont relativement autonomes et exercent une action en retour sur la base. Et cette idée de base est essentielle, elle a été particulièrement propagée par Engels. Base qui finit cependant par l'emporter, mais à travers une série de hasards, comme le dit Engels, à la façon dont la ruse de la raison se fraye la voie chez Hegel. Pour Bernstein, cette autocritique n'était pas conséquente, c'est tout le marxisme qu'il fallait réviser. Pour Plekhanov, au contraire, il s'agissait de montrer que cette autocritique floue suffisait à tout et expliquait tout. Plekhanov entend tout expliquer en remontant toujours à quelque chose de plus fondamental, de plus haut. La base matérielle est purement matérielle. Il en arrive à concevoir la technologie indépendamment des rapports de production et les rapports de production sans leur forme juridique, politique et idéologique. On sait les ravages que peut entretenir ce genre de théorie. Il suffit de penser, par exemple, aujourd'hui, à la théorie du développement des forces productives chez les communistes traditionnels, à la distinction qu'ils font entre division technique du travail et division sociale du travail, à la distinction que certains font entre lutte économique et lutte politique, à la confusion fréquente qui existe chez les uns ou chez les autres entre propriété juridique des moyens de production et propriété sociale des moyens de production. Il n'existe pas d'économique pure chez Marx, et il faut l'affirmer bien haut contre toutes les déviations positivistes et économistes. La meilleure preuve en est le point de départ lui-même du capital. Et à cet égard, on va voir qu'il faut récuser complètement l'image qui est souvent diffusée du capital, c'est-à-dire la présentation du capital comme un ouvrage purement économique, souvent d'ailleurs opposé à l'histoire, histoire qu'on ferait ensuite, qui s'édifierait sur cette base, sans en faire à proprement parler partie. Quelle est la réalité du point de départ de Marx dans le Capital? C'est la formule de la société marchande bourgeoise, AMA, argent, marchandise, argent. Or, ce que Marx montre, c'est que cette formule est déjà celle de l'affrontement de classes entre capital et force de travail, entre bourgeois et prolétaires. Les rapports de production sont des rapports sociaux de production. Ils mettent en relation des objets, les machines, les matières premières, les autres moyens de production. Mais ce ne sont pas n'importe quels objets, ce sont des objets actifs. Capital constant et capital variable, cette distinction entre capital constant et capital variable, recouvre la distinction entre capital et force de travail. C'est ce que précisément vient dissimuler dans la réalité de tous les jours le fétichisme de la marchandise. Le capital n'est pas une nouvelle économie politique, c'est comme l'indique son sous-titre, la critique de l'économie politique et de la séparation du tout social en sphères, séparation qui perd de vue l'unité dialectique. Ceci ne signifie pas pour autant qu'il faut éliminer l'hétérogénéité du tout. Le politique et l'idéologique sont des moments du tout, mais ce sont des moments spécifiques et donc distincts. L'économisme peut conduire à des résultats historiques très divers. Par exemple, le technocratisme, du type les socialismes technocratiques fondés à la fois sur le plan et le marché. L'économisme peut déboucher aussi, c'est une autre forme, sur un anarcho-syndicalisme qui fait abstraction de la spécificité et de la nécessité de la lutte politique. L'économisme peut encore déboucher sur un réformisme trade unioniste qui confond la lutte de classe avec la seule lutte pour le salaire et l'isole d'une lutte politique qui serait enfermée dans la seule action parlementaire. L'économisme, c'est encore le catastrophisme dans deux sens. Alors, prenons une première acception de ce terme. L'international communiste, grâce aux travaux de l'économiste hongrois Varga, avait prévu la grande crise économique des années 30. Mais on en a conclu mécaniquement, sans tenir aucun compte de la situation politique et idéologique réelle, de sa spécificité et de la conscience de classe en général, que la guerre devenait inévitable et que par conséquent, également, la social-démocratie était l'obstacle le plus sérieux à abattre pour en finir avec le capitalisme en crise et passer au socialisme. Ce mécanisme a conduit à isoler les communistes, à briser l'unité de la classe, puisque l'ennemi principal désigné était les socio-fascistes, les sociodémocrates, et non les fascistes. Faut-il rappeler à cet égard la sinistre citation de Talman, il ne faut pas que l'arbre fasciste nous cache la forêt social-démocrate. Non seulement les communistes ont été isolés, mais ils ont contribué ainsi à faire le lit du fascisme. Il y a d'autres versions du catastrophisme qui vont en sens inverse. Par exemple, la fameuse théorie du surimpérialisme de Kautsky, que Michel Rocard a cru naïvement redécouvrir et nous refiler en douce lors d'un dernier conseil auquel il avait participé au PSU. Le processus économique ne conduirait pas au développement des contradictions et de la lutte de classe, il conduirait au contraire à la domination d'un seul impérialisme à l'échelle mondiale qui lui permettrait de résoudre, au moins pour un temps, ses contradictions principales. Comme si de tels phénomènes pouvaient se réaliser mécaniquement sans être contrecarrés par le développement des luttes de classe. On ne peut pas ici rendre compte de tout cela avec la précision nécessaire. Mais j'espère que ce qui a été dit permettra tout de même une certaine réflexion. Il y a une unité organique entre économie et sociologie. Et cette unité organique, elle se situe dans les classes sociales qui revêtent une double signification. Les classes sociales, ce sont à la fois des facteurs ou des conditions objectives du procès de production et en même temps les agents politiques de tout le procès social humain.